toujours avec le Père Willem.
Pour une équipe de voisinage, avant même de nous associer et de nous lier, nous sommes voisins et ce voisinage n'est pas absent de lien. Le voisinage est un lien par le lieu. C'est à l'intérieur du champ du voisinage que doit se penser l'éthique, dans une dimension analytique, mais aussi dans une dimension prescriptive, ni du moins avertie de la dangerosité de certaines formes de coexistence. La crise migratoire occupe la une de nos médias. Elle envahit le débat politique et pèse déjà lourd à plus de 6 mois des élections présidentielles. Elle alimente nos peurs et nous submerge parfois d'émotions pour donner toutes ses chances à une hospitalité citoyenne. Il paraît nécessaire de chercher quelques lumières du côté de l'histoire et de la tradition philosophique. Je pense que les problèmes du débat de l'humanité sont ceux qui se poseront à la fin, spécialement celui du caractère sacré du droit d'asile et celui du respect de l'étranger. C'est ce que écrivait Louis Massignon en 1963. Comment oublier le petit Elam, un enfant syrien noyé à 3 ans, ou la petite Loza, une fillette soudanaise de 5 ans, séparée de sa maman au moment d'embarquer. Comment penser et agir face à tant de détresses humaines? Les éléments de réflexion que nous proposons ne prétendent nullement apporter des réponses. Nulle approche idéologique, nul désir de culpabiliser, et encore moins de donner des leçons. La question migratoire est bien trop complexe et la société française bien trop fragilisée par le chômage, par les attentats, par l'absence d'horizon. Il nous semble pourtant impossible de fermer les yeux, de barricader sa porte et surtout de verrouiller son cœur. Depuis bientôt 10 ans, nous le savons d'expérience, il est possible d'accueillir des demandeurs d'asile ou des réfugiés statutaires. Dans des familles, des communautés religieuses ou des paroisses. Oui, l'hospitalité est une réalité vécue en France, notamment dans le cadre du réseau Welcome de l'association JRS. Cet accueil responsable, encadré par une charte de bonnes pratiques, mûrement réfléchie et accompagnée, est l'occasion de rencontrer belles, fortes et joyeuses des rencontres comme celle-là. Oui, des rencontres belles, fortes et joyeuses. C'est merveilleux. Et c'est vrai. Ces expériences d'hospitalité, d'une durée moyenne de 4 à 6 semaines, facilitent incontestablement l'intégration des étrangers. Et ces rencontres donnent aux Français de goûter la joie de l'hospitalité, sa simplicité, sa fécondité. Peut-on aujourd'hui aller plus loin? Est-il possible d'envisager une pratique citoyenne de l'hospitalité qui comporterait clairement une dimension politique sans être pour autant partisane? Ces dimensions d'engagement et de résistance dans un contexte difficile permettraient de tirer de l'histoire un certain nombre d'enseignements. Elle ouvrirait aux Français la possibilité de renouer avec leur passé, celui d'une France terre d'asile qui faisait rêver tant de nations. L'histoire de l'hospitalité est ancienne, plus ancienne que la pensée politique et juridique. Elle coïncide avec les débuts de l'humanité nomade, avec l'apparition de cités protégées par des lois et des frontières. Avant la politique et l'éthique, il existe donc une loi de l'humanité, une loi qui est du cœur et qui n'est pas écrite, placée au-dessus des lois de la famille. C'est qu'elles attestent la figure d'Abraham et celle de Lot accueillant à Sodome les deux anges entrés à l'ombre de son toit. Voyez dans Genèse chapitre 19. Les récits d'Homère, écrits vers la fin du 8e siècle avant notre ère, valorisent tellement cette loi première que le philosophe René Scherer désigne l'Odyssée comme le livre de l'hospitalité et l'Iliade comme le livre de l'hospitalité trahie. Les dieux d'Homère, Zeus en particulier, sont hospitaliers. Athènes est même l'étrangère protectrice des hôtes dont elle revêt la forme. Car déjà en Grèce, il est admis de tous que l'humain et même le divin se cachent derrière des apparences trompeuses. Derrière un étranger peut se cacher un dieu. Et alors, deux extraits de l'Odyssée en attestent. Le premier marque la réprobation unanime lorsque le noble Antilos s'autorise à frapper Ulysse, déguisé en mendiant. « Tu as eu tort de frapper ce malheureux vagabond. Peut-être est-ce un dieu venu du ciel ?» Le second extrait montre le serviteur d'Ulysse, le porcher humé, accueillant son maître sans le reconnaître. « Étranger, je n'ai pas le droit. Quand même viendrait quelqu'un de plus misérable que toi, de manquer du respect envers un autre. Ils sont tous envoyés par Zeus, étrangers et mendiants. » Une autre œuvre de l'Antiquité grecque résume à elle seule le drame de l'exil et le devoir d'hospitalité. Les suppliantes d'Eschyle, dans cette tragédie d'une étonnante actualité, 5 jeunes filles s'exilent pour échapper à un mariage forcé. Et c'est bien le roi d'Argos, avec l'assentiment de son peuple, qui décide leur sort en leur offrant l'asile. Il convient de mentionner le rôle important joué par les dieux, à commencer par Zeus, hospitalier pour tous et protecteur des suppliants. Certains passages de la pièce méritent toute notre attention. Ainsi, le roi, conscient des risques de sa responsabilité, engage une profonde réflexion afin que tout se concilie heureusement, sans attirer la guerre et la vengeance, et il pose le débat en ces termes. Puissent-elles, ces étrangères, ne pas être une cause de ruine pour nous, et puisse une guerre inattendue ne pas sortir de sac. Car il y a manque d'hospitalité. Et s'il y a manque d'hospitalité, toute la ville en est responsable. Et c'est au peuple tout entier à s'en inquiéter afin d'échapper à l'expiation. Malgré les dangers et les risques de division, le roi, plein de doutes et d'effroi, reste intimement convaincu que l'hospitalité est un devoir sacré. Aussi tente-t-il de persuader les citoyens d'être hospitalier sans pour autant les y forcer, car l'hospitalité ne se décrète pas d'en haut. C'est la raison pour laquelle le roi répond dans un premier temps à la demande d'asile. La cause n'est pas facile à juger, ne me prends pas pour juge. Je te l'ai déjà dit, même si je n'avais le pouvoir, je ne déciderai rien sans le peuple, de peur qu'il me dise un jour, si quelque malheur arrivait, pour avoir honoré des étrangères, tu as perdu ta ville. »